Ésotérisme expérimental. Avec Richard Glenn. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, à cette 17e rencontre à CJLV, la radio du mieux-être. Et oui, nous avons toujours la même musique thème depuis 1976 comme indicatif de ésotérisme expérimental, autrefois sur le câble de 1976 à 1997, et dès avril 1997, c'était strictement sur Internet jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous sommes depuis l'automne dernier à cette station de radio CJLV 1570 AM. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage dans le passé qui est le reflet de aujourd'hui. Vous allez me comprendre après avoir entendu les invités que je vous propose qui étaient réunis autour d'une table ronde pour mes émissions à l'époque du câble dans les années 80. Il s'agit du docteur Raymond Bontemps, médecin français, suisse, et aussi de monsieur Michel Morin, exégète, spécialiste des textes anciens, et Maurice Poulain, bien connu au Québec comme astrologue, et aussi exégète des textes sacrés, des prophéties profanes et sacrées, entre autres de Nostradamus. On va aborder le thème du grand monarque. Le grand monarque dont on pourrait dire que le film Ascension de Jupiter fait un clin d'œil. Il s'agirait d'une femme choisie entre toutes pour des raisons génétiques. Elle serait celle qui représenterait l'avenir de la planète. À l'époque, on en discutait en se basant sur les textes historiques, parfois des interventions de A.D. Grade, kabbaliste juif, qui vient apporter une couleur encore plus ésotérique, parlant de la kabbale, numérologie hébraïque, en rapport avec le thème du Messie et du serpent tentateur dans le paradis terrestre. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve à la toute fin de cette émission bien spéciale qui va en scandaliser plusieurs, qui va porter outrage à la docte réserve que doivent avoir les médias de communication, sachant depuis le mois de janvier 2015 que nous sommes peut-être un peu tous Charlie, on va comprendre l'impact des propos de ces invités autour d'une table ronde dans les années 80 pour une émission qui était diffusée à l'époque strictement sur la télévision communautaire au Québec, par le câble, à la fois au Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, la région de Drummondville, les cantons de l'Est, évidemment, les villes de Québec, Montréal, pour ne pas l'oublier, précisément surtout la rive sud où j'avais débuté en décembre 1976, mais ça s'était répandu sur Cablevision Nationale, CF Cable TV de l'Ouest de Montréal, même la télévision des Laurentides, la région de Gatineau, Hall, Ottawa. Alors imaginez que les gens entendaient les propos que vous allez maintenant entendre dans les années 80. Et on se retrouve à la fin, peut-être, pour faire un examen. Peut-être pas un examen de conscience, mais un examen sur la liberté d'expression qu'on pouvait avoir à l'époque. Aujourd'hui, oserait-on diffuser ce que vous allez entendre dans des médias conventionnels? Pourtant, CJLV ici, c'est une radio AM de la région du Grand Montréal et Ville de Laval, qui est considérée comme une radio conventionnelle. Attention, attachez vos ceintures, recouvrez-vous du chador, évitez l'éblouissement qui rend autant aveugle que celui qui n'a pas de lumière pour voir dans les ténèbres. Bonne écoute.
Ils sont obligés.
Mais je me demandais aussi si c'était pas en face du bloc jaune que les Blancs se tiennent ensemble pour faire face au fameux péril jaune.
Je pense que c'était une légende, le péril jaune. Il y a bien plus grave, à mon avis. Je pense, en tout cas. Nous le voyons facilement en France. Lorsque nous sommes dans toutes les villes françaises, il y a un quartier arabe et qui est très fort, très puissant. Les musulmans, le nombre de, comment dirais-je, de mosquées qu'il y a en France, c'est à faire peur.
Près de 1000. Il y a 1000 mosquées. En 20 ans, on a construit près de 1000 mosquées en France.
C'est atroce.
Mais d'après les prophéties de Nostradamus, et vous en êtes spécialiste, oui. Il semblait qu'il y aurait un déferlement du musulman sur l'Europe.
C'est fait déjà.
Oui. Ouais. Il y a deux attitudes face au développement du monde arabe. Il y a deux choses. Il y a le problème religieux, qui est un problème de fanatisme du côté des chiites, et qui est tout à fait annoncé par Nostradamus, qui dit très bien que les Arabes redéferleront sur le monde et l'Europe, et qu'il y aura un grand libérateur qui s'appellera Henri II, Henri le Sauveur, et qui sera le grand monarque. Alors c'est ça qui est intéressant de voir. Comme
et le grand monarque, c'est celui qu'on appellerait le... Ben c'est ça, le messie sauveur du monde.
Il ne faut pas, c'est ça, il ne faut pas mélanger, d'après moi, le grand monarque et le retour du messie. Dans la religion chrétienne, on attend ce qu'on appelle le retour du Christ-Roi, qui doit revenir régner sur la terre dans un royaume terrestre. Et donc les juifs l'accueilleront comme le premier messie, puisqu'ils l'ont loupé la première fois. Et le Christ-Roi, d'après moi, ne revient que bien après l'épopée du grand monarque, qui lui aura à se battre contre les Arabes et contre les Russes dans une nouvelle croisade, et qui sera obligé d'aller libérer les lieux saints, car les Russes et les Arabes seront en Israël. J'en suis presque persuadé, à un moment donné, ils vont s'allier. Il faut savoir que Khomeini, actuellement, a son ambassade à Moscou, Karafat là également. Et le jour où Israël va craquer, ça va être assez difficile.
Et dans les prophéties bibliques, on nous dit que lorsque Israël, ou Jérusalem précisément, sera encerclé par les armées ennemies, ce sera l'arrivée. Oui, ce sera l'arrivée du...
Oui, c'est Megiddo. C'est Megiddo, c'est la grande bataille de Megiddo qui est annoncée par l'Apocalypse de Jean, enfin au niveau des prophéties et de l'Apocalypse, certainement.
Donc la détente qu'on a l'impression de vivre actuellement sur la planète, c'est une fausse paix, une fausse accalmie.
Je pense que c'est une mise en place qui se passe à l'heure actuelle. Une mise en place, on s'en rend très bien compte en France. Je me trouvais en Suisse l'autre jour et il y a un Libanais et qui me disait ceci. Il me disait, vous savez, monsieur, lorsque au Liban, les ethnies se sont installées, nous avons laissé faire. Il y a eu les Arabes d'un côté, les Juifs de l'autre, les ceci d'un autre côté. La police ne pouvait plus pénétrer la nuit.
C'est des gâteaux.
Et puis après, c'était le jour. Et puis après, les ethnies se sont tapées dessus et le Liban a été rayé de la carte.
Ah oui.
Et c'est ce qui se passe en France à l'heure actuelle. La ceinture de Paris est totalement entourée par des Arabes. Moi, je les aime bien, les Arabes. Ils font, eux, leur pénétration. Ça ne me gêne pas. Mais en tant qu'observateur politique, je trouve ça extrêmement dangereux. Lorsque vous êtes à Marseille ou sur la Côte d'Azur, vous êtes absolument à Bab-el-Oued.
Ah oui, comme disait M. Guillou, la banlieue nord d'Alger.
C'est assez effrayant.
Il paraît mais est-ce qu'on ne risque rues... pas, avec ces propos-là, d'être taxé de raciste?
Non, pas du tout. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout... Je ne serai plus raciste, moi, lorsque je verrai en Israël... N'est-ce pas? Des goyes ou des catholiques ou des gentils, comme on nous appelle, oui. N'est-ce pas? Régner.
À la Knesset.
Bien sûr, dans le gouvernement israélite. Lorsque je verrai des blancs dans un gouvernement noir, je me dirais, tiens, ils ne sont pas racistes. Car nous avons eu en France le président Menerville comme président du Sénat pendant des décennies, n'est-ce pas? Nous avons le
nombre. C'est un homme de couleur.
Le nombre de juifs qui sont en France. Mais nous ne sommes pas des racistes.
Non.
Alors quand on me pose cette question, je leur retourne moi la question, car en réalité, ceux qui me posent cette question, ce sont des gens ou de couleur, ou des juifs, ou des arabes. Mmh. Alors c'est quand même gênant, vous comprenez.
Mais là, je vous amène sur une piste dangereuse. Ça, c'est le défaut de la démocratie. La démocratie.
La démocratie, comme disait De Gaulle.
Oui. Parce que finalement, les gens vont être influencés d'une façon ou d'une autre par de la publicité, par le look ou par... Et on fait aller le peuple où on veut l'amener.
Moi, je dirais une chose, nous ne sommes pas très républicains, Richard. En tout cas, pour moi, qui ai écrit le Retour d'Ulysse, je ne le suis pas tellement. Nous attendons tous un grand roi, nous attendons tous le grand monarque.
De droit divin.
De droit divin, et qui descendra certainement de Louis XVII.
Il faudrait
toutes les prophéties en parlent.
Il ne faudrait pas que ce soit un roi franc-maçon, car nous retournerions, mais non.
Mais oui, mais c'est évident.
Enfin, le comte de Paris était maçon. C'était un franc-maçon.
Mais vous parlez de l'actuel, là, alors.
Absolument.
Bien sûr qu'ils sont tous maçons.
Ce serait un grenouillage, véritable grenouillage, n'est-ce pas, républicain.
Mais
le comte de Clermont...
Il y a une chose que je pense qui est quand même très importante de souligner, c'est qu'on parle souvent en termes d'ère historique. Nous sommes dans ce qu'on appelle présentement la transition poisson-verseau. Oui. Il y en a qui disent que nous sommes déjà dans l'ère du verseau, il y en a d'autres qui disent que c'est pas fini. En fait, visiblement, c'est une transition. Et dans toute transition, il y a forcément un ordre ancien qui s'écroule, un nouveau qui peut remonter.
Chaque fois qu'il y a mort, il y a naissance.
Oui, c'est ça. Et fondamentalement, on a la religion chrétienne qui, au départ, n'était pas séparée. Il y avait la chrétienté, point. Il y a eu le schisme qui a fait l'Église orthodoxe. Ensuite, il y a eu le schisme qui a fait l'Église protestante en Occident. Oui. Et il y a eu l'islam à travers tout ça un peu avant qui a été justement fondé parce que les sages musulmans, les sages arabes plutôt, considéraient que la pensée primaire du Christ avait été déformée. Et Mahomet avait été chargé de restaurer la pureté. Alors, le grand monarque, finalement, va être le personnage qui va, en quelque sorte, faire comprendre aux gens qu'au-delà de toutes les religions, il y a un principe spirituel qui est sous-jacent. Et que le principe verso fondamental qui aime ton prochain comme toi-même, comme vous soulignez tantôt, dans l'amour du prochain, il n'y a pas de racisme.
Mais non, c'est l'évangile.
Il y a le respect pour le cœur et l'intelligence. Alors, dans ce sens-là, ce personnage-là, on peut le voir dans Nostradamus, on peut le voir dans des prophéties bibliques même, sans qu'il y ait de nom évidemment de nommé, où il est bien dit que ce personnage-là ne vient pas pour un peuple en particulier, mais pour tous les peuples. Et ce que Nostradamus dit très clairement, c'est que le personnage... Enfin, il y en a deux. Il y a deux personnages de sang royal. Un, apparemment, purement français. L'autre, français et espagnol. Ça, c'est extrêmement important. Et il y a même un texte ici, si vous voulez, on peut regarder peut-être un petit passage tout à fait approprié, où on dit clairement, pour une époque qui est difficile à définir, mais ça pourrait être la prochaine décennie, on dit qu'il y a un empereur qui va faire quelques grandes défaites de la barbarique nation avec grande décadence à leur règne, parce qu'il règne à ce moment-là, sur l'Europe méditerranéenne en particulier, par victoire chrétienne. Alors, on dit le plus grand des chrétiens, alors on voit le thème... christique dans l'état pur, avec le grand accord de toute sa consanguinité et royale alliance, donc, ils sont deux. Oui. Ils font une grande délibération occulte, peu de paroles, mais dont les conséquences sont d'éliminer une certaine forme d'islam dégradé, mais l'islam pur, le christianisme pur, tout ça, ça fait jonction.
Donc, on verrait apparaître sur la planète qu'une seule religion. Une grande religion.
Une religion sans... En fait,
d'amour.
Ultimement, une religion spirituelle pure.
Oui,
c'est ça. La religion de l'amour du prochain comme soi-même.
Bon, alors, à ce titre-là, plusieurs prophètes profanes disent « C'est le jour où l'Église catholique romaine, qui pense avoir la primauté sur toutes les autres religions, ils sont partout chez eux, ils ont leurs ambassades dans les diocèses dans tous les pays du monde. »
Oui, puis enfin, ils ne sont pas les seuls.
Qu'à ce moment-là, c'est justement là qu'on pourra parler de la grande prostituée. C'est-à-dire que l'Église sera obligée de laisser tomber certains dogmes, certaines valeurs spirituelles et morales pour adhérer à ce joint venture de toutes les religions planétaires.
Toi qui connais tous leurs secrets, bien mieux qu'eux-mêmes, N'as-tu jamais pensé qu'un jour il s'en irait, les confier à d'autres bras, d'autres sourires? Et ce jour-là, tu sais qu'il te faudra souffrir.
Petit peuple, on sait qu'il y a des manigances planétaires. Il y a des manigances, vous avez soulevé tantôt le rôle des francs-maçons. C'est pas une race, c'est pas une religion. Qu'est-ce qu'ils viennent faire
dans... C'est une philosophie.
Ben oui, mais on adhère francs-maçons. On a une carte de membre francs-maçons, si on veut. On a...
Mais je veux te dire, c'est pas ceux qui ont des cartes de membres qui sont les plus puissants. C'est ceux qui ne les ont pas.
La piétaille est connue, mais la grande loge n'est pas connue. Vous savez, mon père était un grand franc-maçon et il m'avait dit surtout... n'adhère jamais à cette franc-maçonnerie, car elle va mettre le monde en bombe. Et mon père était un grand initié de la franc-maçonnerie. Il m'avait donné ça comme consigne. Et je l'ai suivi, et je me rends compte maintenant qu'il y a des gens extrêmement puissants dans la franc-maçonnerie, qui sont des gens très bien d'ailleurs. Je ne critique pas les personnes en elles, mais ce que je considère, c'est que ce sont des gens extrêmement dangereux. Par exemple, je le connais, je le sais, en médecine, en pharmacie. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Car si vous n'avez pas fait acte d'obédience envers certaines loges pour être un patron des hôpitaux, il n'est pas question.
Oui. C'est comme ça que certaines connaissances qui seraient bénéfiques à l'humanité ne peuvent pas être encore...
Alors, on peut dire que, n'est-ce pas, la franc-maçonnerie, en principe, est faite pour le bien de l'homme. Mais où commence-t-il, où finit-il, ce bien de l'homme? N'est-ce pas, lorsque le Vatican, Jean XXIII, on le disait un grand franc-maçon, n'est-ce pas, il a voulu désacraliser l'Église, incontestablement.
Mais c'est lui qui a initié le Vatican II.
Il voulait qu'on appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Thérèse Martin. Bon, ça dit beaucoup de choses. Oui, mais ce n'est pas ça le plus grave. C'est que la maçonnerie désirait une chose, c'est faire comme la reine d'Angleterre, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, nommer eux-mêmes les gouvernements, les évêques. À ce moment-là, le Vatican disparaissait.
C'est une lutte, c'est ça, vous dites très bien. C'est la lutte de la religion contre la laïcité, poussée à fond, c'est évident.
Absolument. D'ailleurs, la reine n'a pas voulu que le prince Charles n'assiste à la messe du pape, qui est bien évidemment quelque chose à fait notoire.
Élisabeth II, bien sûr, est chef de son église. Et c'est une femme, curieusement.
Ah oui, mais ça prenait le pape et la papesse.
C'est bien,
dans tous les
c'est
jeux
bien.
De tarot, on le
sait. Mélangeons pas le tarot et l'histoire, mais je veux dire, c'est assez remarquable.
Alors, on a l'empereur.
Que le chef de l'église anglicane soit une femme. C'est pas pour rien. Vous savez, les choses se mettent en place, très curieusement. Et qu'il y a une bagarre entre eux, c'est évident.
Non, mais enfin, là, on voit que le jeu de la maçonnerie est de prendre la place incontestablement de l'église. En nommant...
De quelque religion que ce soit.
De quelque religion que ce soit.
N'est-ce pas? Donc, ils sont bien placés pour devenir le gouvernement planétaire.
Ah, écoutez, regardez les...
Et pourquoi pas?
Sur le
mais
plan...
Moi, je pousse un peu plus loin en disant, mais pourquoi pas?
Il y a une raison très simple.
C'est-à-dire, c'est embêtant parce que je pense que pourquoi si vous n'êtes pas, à ce moment-là, si vous n'êtes pas franc-maçon, vous serez éliminé de toute espèce de consensus.
Il y aura les seigneurs et les esclaves, c'est tout.
Mais si un roi, ça a toujours été... Le roi dirige, domine et pyramidalement,
alors on va revenir,
il a sa cour.
On va revenir au grand monarque.
Il y avait une raison très simple.
Ben voilà,
mais le grand monarque doit être...
Il va passer par-dessus la tête
non,
de la maçonnerie.
Non, il est basé sur
c'est
la
évident.
Spiritualité.
Il passe sur la tête de la maçonnerie et il est allié au Saint-Pape, qui, d'après moi, sera flos florum. Ça demanderait aussi de parler des devises des papes. Ça, c'est intéressant, car je pense qu'on s'est trompé complètement. Et ça, c'est un piège. Disons, du grand diviseur, de nous faire croire qu'on est à l'avant-dernier pape. Je n'y crois pas du tout.
Flos florum était Pidouze.
Pas du tout. Flos florum était donné à Paul VI, qui portait dans ses armes...
La fleur de lys.
La fleur de lys.
Ben oui.
Et oui, mais ça, c'est une espèce de piège pour protéger la fin et l'Église. Car je crois que flos florum devrait... être les armes portées par le Saint-Pape qui sera avec le grand monarque. Car le grand monarque va chercher le Saint-Pape et qui, lui, le sacrera à Rome. Le grand monarque sera visiblement sacré à Rome, à Aix-en-Provence et peut-être à Reims. Vous savez que Charlemagne a été sacré 7 fois. Les empereurs, dans l'ancien temps, étaient sacrés plusieurs fois. Et on peut penser, dans les prophéties que nous connaissons tous, que le grand pape sera du sang bourbon également, et qui ne sera même pas cardinal. On viendra le chercher dans un monastère d'un ordre qu'on dit déchaussé, à vous de chercher lequel, et ce grand pape sera le défenseur du grand monarque, et unis, ils reconstitueront certainement une force spirituelle.
Ce sera donc une religion qui deviendra politique, et non une politique qui deviendra une religion.
C'est tout à fait la synarchie qui était appelée de grand vœu par certains. La synarchie, ça veut dire deux. Donc le pouvoir de l'Église et le pouvoir politique et temporel.
C'est ça.
C'est pour ça que l'aigle russe a deux têtes.
Mais là, tout ça me rappelle, de mémoire d'homme, Adolf Hitler.
Ah. Oh mon Dieu, là, mélange pas les gens, mon
Appelez-moi
Dieu.
Appelez-moi pas mon Dieu, là, et on va mélanger les choses.
Non. Là, je te dis, Richard, là, alors,
y
tu
y
vas un peu loin,
moi. Une question que tu as posée.
Il y a eu Napoléon.
Oui.
Il y a eu Adolf Hitler.
Absolument.
Et il y en a un troisième.
Staline.
C'est Staline?
Oui, Staline est un précurseur de l'Antéchrist, évident.
Oui, moi, il n'a pas encore manifesté son empire, en tout cas.
Mais Staline a eu son empire, 30 millions de morts. Alors ça, je vais te le dire, Napoléon Bonaparte, c'est un précurseur de l'Antéchrist. Pour moi, il y a trois précurseurs.
C'est
Napoléon Bonaparte, il y a eu donc
Adolf Hitler
et Staline, qui s'est allié 666 jours, je te l'ai déjà dit, exactement, historiquement, c'est exact, et qui donc, c'est le nombre de la bête. Et l'Antéchrist sera la bête. Il y a une troisième bête, il y a une quatrième bête qui vient, ou cinquième bête qui vient, et qui pourrait avoir le nom de K. Car dans des prophéties polonaises, il est dit, quand il y aura 3 K, tout s'effondrera. Maintenant, dès que quelque chose disparaît aujourd'hui dans le monde de l'islam, tout de suite, c'est une république islamique. Moi, je suis persuadé qu'en Afghanistan, très bientôt, il y aura une république islamique.
Maurice.
Tantôt, tu parlais de pourquoi le pouvoir maçonnique ne régnerait pas. Mais en fait,
oui, pourquoi pas.
Ça risque de se produire jusqu'à un certain point.
Il règne.
Il y a un passage.
Oui, il règne.
Mais
il
pourrait même régner un certain...
Il règne à l'heure actuelle.
Disons que la bête est sortie et elle existe déjà aujourd'hui.
La bête règne.
Ça fait très longtemps.
Depuis 1917. Depuis 1917.
Je veux faire la jonction justement entre le passé et l'avenir. C'est que le personnage, en fait, un personnage dont on parle dans Isaïe, qui est un serviteur de Jéhovah, supposément, et c'est très important, on dit qu'à un moment donné, il est l'esclave des puissants. Mais il était esclave un certain temps. Et au bout de ce temps-là, tout à coup, il se produit quelque chose, car les peuples voient ce qui ne leur avait pas été raconté. Autrement dit, l'illumination se produit, et là, il devient clair, même pour les puissants, que le personnage leur échappe, en quelque sorte. Et dans ce sens-là, il n'a pas à être maçon au départ, mais forcément, quelqu'un qui veut faire quelque chose sur la place publique de nos jours, d'une certaine façon, c'est vrai, doit passer par, indirectement ou directement, par les contrôles occultes. Tu parles de maçonnerie.
Mais je connais des francs-maçons qui vont rouspéter à tout ce qu'on dit actuellement. Ils sont des gens simples.
C'est leur droit.
Mais ce sont des gens souvent très bien.
Ouais. Oui, c'est
ils
ça.
Ils sont très brillants.
N'est-ce pas? Mais il n'y a pas question de pas attaquer le franc-maçon en tant que personne. C'est en tant qu'organisation internationale.
Société occulte.
Mais bien sûr, c'est une société occulte. On veut bien nous laisser voir ce que nous désirons voir, n'est-ce pas? Ils semblent être tout à fait de bons enfants. Mais en réalité, ils sont tous reliés par la tête.
Un maçon m'a dit, nous sommes une société non pas secrète, mais discrète. Parce qu'on les aujourd'hui, ils ne se cachent plus.
Oui.
Parce qu'ils sont tellement puissants, ils n'ont plus à se cacher. C'est ça le problème. C'est
évident. Mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants.
La franc-maçonnerie a voté la mort de Louis XVI. La franc-maçonnerie a voté la mort du roi de Suède, qui était l'ami et l'allié de Louis XVI, en convent. Trois ans avant la Révolution française. Bon. Tout était déjà joué.
Vous êtes tous les deux français, je pense. Et
oui,
donc, pour vous, la notion des rois de France, c'est appris depuis la petite école. Pour nous, les Québécois, on ne sait pas trop à quoi ça rime.
Vous êtes nés aussi de ça.
On est,
oui.
C'est évident.
Oui. Vous êtes quand même le fruit de la France.
Vous êtes impliqué. Moi, vous savez...
En grande partie du peuple hébreu qui a été obligé de s'enfuir d'Europe, qui était pourchassé.
Oui,
on
absolument.
Est des Juifs exportés, puis il fallait qu'on s'exporte.
ne poussons pas trop, quand même. Il y a beaucoup de Normands qui étaient loin d'être des Juifs.
Qui étaient... Celtes ou...
Qui étaient des Celtes,
oui. Toutes les nations, il est venu de toutes les nations.
Là, je pense qu'il est très important de souligner tout de même que moi, lorsque je suis français, lorsque je viens au Québec, j'ai l'impression d'être en France. Plus tous les... Ah, pas en France. En France, à Paris, je n'ai plus l'impression d'être en France du tout. On va me traiter de nationaliste, de raciste, ça m'est égal. Je dis pourquoi je ressens ça, n'est-ce pas? Oui. J'ai bien le droit de sentir...
Et vous savez, vous parlez de l'enclave arabe autour de Paris.
Mais non, il n'y a pas qu'arabe.
Il y a 4 millions d'arabes en France.
Multiculturel.
Vous comprenez?
Ils sont déjà là, il n'y a pas besoin de faire rentrer.
L'ennui, c'est que M. Désir est toujours dans les manifestations. Lorsque Khomeini a fait son apostrophe contre cet Anglais, il y a eu des mises à mort de crier dans tout Paris. Mais enfin, nous avons des gouvernements qui sont des gouvernements qui sont des condescendants. Et tout à fait d'accord. Depuis que nous avons rendu les colonies à leurs colonies, à eux-mêmes, jamais on n'a eu autant d'Arabes en France. Vous comprenez?
On a déjà eu quelqu'un qui a dit sur l'émission que là où tu trouves un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est franc-maçon en dessous. Égalité, liberté,
mais
fraternité, c'est la devise de la France, c'est aussi la devise de la
maçonnerie. Mais c'est la devise de la maçonnerie à partir de 1848, c'est Louis-Philippe qui l'a instituée.
Alors, comment se fait-il que si ce sont eux qui sont dans l'occulte de la politique française, ils aient laissé faire tout ça, là?
Mais ça marche tout à fait dans leur sens.
La révolution a été faite pour ça.
Diviser
enfin,
pour
vous plaisantez. Mais c'est tout à fait l'obédience maçonnique qui veut absolument l'absence complète de racisme et de choses comme ça. Ils veulent absolument un mélange pour mieux régner. Le livre de M. de Virion, « Vers un supra-gouvernement mondial », n'est-ce pas? Lorsque ce livre a été imprimé par 4 fois, dans les 48 heures, il était supprimé des librairies, car tous les maçons l'achetaient pour pas que l'on sache ce qui se passait très exactement. Parce qu'il y avait tout un retour aux sources.
Y a-t-il des maçons arabes, des maçons...
Ah oui, bien sûr, mais bien
des maçons libanais, des maçons... C'est une grande fraternité.
C'est évident.
Mais alors, vous savez, ça me fatigue, parce que je me dis, c'est peut-être ceux-là qui vont sauver la planète.
Non, en tous les cas, ils n'en prennent
sauver
pas...
Sauver dans quel but?
Ils n'en prennent pas le chemin.
Oui. Créer un esclavage universel?
Ben, à la manière d'Adolf Hitler.
Ah, mais c'est
mais alors, si c'est un but pour toi, Adolf Hitler, mon vieux, tu as vu comment ça avait terminé?
Ben oui, mais en autant
80 millions de morts, il a fini...
On peut dire qu'auprès des Russes, Adolf Hitler était un boy scout.
Absolument. Car il y en a un qui s'est fait jamais prendre, c'était Staline, qui a tué 30 millions de gens.
Exactement.
On parle toujours des 6 millions de Juifs. C'est affreux. C'est un génocide.
Bien sûr.
Mais Staline a tué 30 millions de son peuple et il est mort dans son lit, enfermé dans sa datcha. C'est
sans
une honte.
Sans compter ceux qui l'ont tué. Dans l'âme, sans tuer le corps.
Et Richard, tu remarqueras que les criminels contre l'humanité, on les attrape jamais.
Nous sommes de retour après cette pause du milieu de l'heure pour écouter la suite de cette table ronde enregistrée dans les années 80 à Ésotérisme expérimental. Nous sommes de retour à l'émission Ésotérisme expérimental. Nous écoutons une table ronde enregistrée dans les années 80 pour Ésotérisme expérimental avec messieurs le docteur Raymond Bontemps, français-suisse, Michel Morin, auteur, écrivain et exégète des textes sacrés, ainsi que Maurice Poulain du Québec, astrologue, exégète de Nostradamus en particulier.
Alors, on revient au thème de notre émission, le grand monarque.
Revenons.
Lui sera donc de droit divin, de sang royal, de succession directe avec Mérovingien, Mérovingue?
Enfin, Mérovingien automatiquement, je veux dire.
Automatiquement.
Et partons des Bourbons, parce que sans ça, c'est ça, c'est la branche Bourbon qu'il faut dire.
N'en
sort pas. Parce que les rois de France remontent jusqu'à David. Le marquis de la Franquerie. Le marquis de la Franquerie a écrit un bouquin extraordinaire là-dessus. Mais non, mais très très précis.
Du David dont on parle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, là.
Mais l'ancêtre, mais bien sûr, celui qui a été sacré par Samuel, etc. Et donc, si tu veux...
On l'appelle sacré Tenelis.
Voilà, car j'ai retrouvé dans une pièce de monnaie d'Israël, ancienne, les trois fleurs de lys des armes de France. Oui. J'ai pas apporté aujourd'hui, c'est dommage.
Bon, alors là, on est sur une piste qui m'intéresse au plus haut point. Parce que si on parle de la maison de David, des prophéties disaient justement que le Messie viendrait de la maison de David.
Oui.
Bien sûr.
Quand on lit les Évangiles, l'un d'eux donne la généalogie de Joseph qui remonte à la maison de David et bien qui sûr. A donné naissance à Jésus, le Christ.
Le Christ remonte par, les, bon. Par ses deux branches, paternelle direz... et maternelle, à David, bon. Le roi d'Israël.
Alors, c'est ça, justement. Lorsque les rois mages sont venus
oui.
en Palestine, ils sont venus en disant, on vient voir la naissance du roi des Juifs.
Mais oui, bien sûr.
Et sur sa croix, après sa mort, Pilate a fait installer un insigne disant Jésus,
de Nazareth, roi des Juifs.
Roi des Juifs.
Oui. Alors, les
alors
rois
il
France...
était mérovingien. Il était de
non,
la
non,
dynastie...
Il descend, c'est mérovingien, après David. Mais c'est pour ça qu'au sacre de Reims,
oui.
le Donc, dernier roi a été sacré vraiment avec l'ampoule véritable, n'est-ce pas, j'en parle dans mon livre.
La parenthèse que je
la sainte huile. C'est que le roi oui. de France était sacré et l'évêque lui disait, je te sacre comme Samuel a oint David. Pour te rappeler dans le sacre que les rois de France descendent de lignée davidique. Et c'est pas moi qui l'écris, c'est le marquis de la Franquerie, ancien diplomate du Vatican, ami de Pie XII.
Je reviens à ma petite parenthèse, Michel Morin, bon. C'est que le Jésus-Christ, est-ce qu'il n'aurait pas été de droit divin, digne successeur de David, pour porter la couronne
Et bien sûr.
Chez les Juifs?
Mais c'est ce qu'on peut penser.
C'était pas seulement un preacher, là, un bon spiritualiste, là, mais vous les uns les autres. C'est qu'il était de droit.
Les Juifs ne l'ont pas reconnu, mais ils le reconnaîtront, puisque lorsque les chrétiens attendent le retour du Christ-Roi, et les Juifs l'accueilleront pour la première fois. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure.
Ils le reconnaîtront.
Enfin, c'est dans l'Église. Enfin, je veux dire, chacun décide ce qu'il pense.
Bon, mais Jésus n'a pas eu d'enfant. Et Jésus était le seul de sa famille, et Jésus est mort sur la croix.
Ben oui, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai lu dans l'Évangile comme toi. Mais...
Alors, si je me fie à un monsieur que tout le monde connaît bien maintenant au Québec, M. Adégrade, il nous a expliqué que le mot Messie, en Kabbale, correspond au chiffre 358, et que le mot Machia, donc Messie, correspond aussi 358, le mot Nahash. Et le mot Nahash, c'est le mot serpent.
Bon, ce serpent porte en hébreu... On est toujours obligé de revenir à l'hébreu, parce que sinon, on ne peut pas savoir ce qui est écrit. Tout le monde connaît l'histoire du serpent et de la pomme, évidemment. Je vous rassure tout de suite, on ne parle pas de la pomme dans la Bible, et dans l'original. Défaut de traduction, latine, malum. Mais le serpent se dit Nahash. Nun, Chet, Shin. C'est-à-dire valeur numérique 358. Or, quand vous parlez en hébreu, vous faites forcément de l'arithmétique, de la guématrie, disons. Et il se trouve que l'indication du mot Nahash chez les Hébreux veut dire le Messie, Mashiach. Mashiach vaut 358. C'est l'histoire du serpent. C'est loin du Seigneur. Et l'apostrophe.
Alors là, l'histoire est compliquée. C'est que du paradis terrestre, on a été chassé par Yahvé parce qu'on avait accepté, si on veut, l'approche du Messie de l'époque.
On est plus du tout, on est dans l'histoire sainte, on est dans le catéchisme. Là, on ne vient pas. Il faudrait revenir à notre sujet, qui est le grand monarque et son arrivée proche, parce qu'il arrive bientôt.
Oui.
Oui.
C'est donc le retour de cette descendance.
C'est le retour d'Élis.
Oui, mais c'est la descendance d'en haut.
Oui, certainement.
C'est le retour du serpent.
Mais c'est pour ça que la France
avait. C'est le retour du serpent.
D'ailleurs, le roi était le lieutenant de Dieu.
Oui, sur la terre.
C'était et le représentant de Dieu, de droit divin.
C'est ça, donc, et la force.
Ça ne peut pas être autre chose. À partir du moment où vous voulez suivre les prophéties, c'est un homme de droit divin qui arriverait. Donc, lieutenant de Dieu.
On dit même fils de Dieu.
Oui, enfin, lieutenant du Christ, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est la force de la monarchie française qui a été quand même la lumière du monde.
Qui était la fille aînée de l'Église.
Qui a quand même régné plus de 13 siècles, si vous voulez, quand même sur l'Europe.
Bon. La confusion. Oui. Il ne va pas venir sauver les autres en tant que sauveur, c'est-à-dire il ne va pas mourir pour nous. Cette fois-ci, il va vivre. Mais dans notre tradition kabbalistique, il est dit que le Messie ne sera pas un être tellement recommandable. C'est-à-dire, ça ne sera pas le plus saint des saints. On dit même, méfiez-vous, c'est peut-être un drôle d'oiseau.
celui qui doit venir. Donc là, il y a un problème, si vous voulez, je dirais, de prise de conscience face à la réalité. Je sais que je vais choquer bien des gens en disant ça. Je ne veux froisser aucune susceptibilité, vous me connaissez depuis des années. Donc je ne veux froisser personne, mais je veux dire ce qui est. L'homme ne se sauvera que par lui-même. Il y a 2000 ans qu'on croyait avoir sauvé l'homme, qu'on était mort pour lui. Or, il y a eu des guerres de plus en plus, et tout récemment, Iran, Irak, partout on s'entretue. C'est pas possible, c'est pas le règne de l'agneau.
Oui, mais alors le pauvre grand monarque va arriver tout seul, avec sa propre bannière, tout seul.
Non, c'est ça, Richard.
Et dans aucune religion, dans aucune organisation, ni occulte, ni...
Ils vont le récupérer un certain temps.
Il arrive comme Jeanne d'Arc, oui.
Il le récupère, comme je le disais tantôt, à un moment donné, il est l'esclave des puissants, par la force des choses. À la mesure où les puissants contrôlent radio, télévision, journaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut publiciser qui n'est pas approuvé par eux, dans le fond? Alors, dans la mesure où eux pensent pouvoir détourner peut-être certaines choses spirituelles, ils vont le détourner. Ils vont toujours essayer de matérialiser le spirituel plutôt que de, en quelque sorte, donner la vie. Oui, ils vont vouloir structurer, canaliser cette vie-là dans un sens...
L'image que vous faites du grand monarque ne sera pas seulement spirituelle, ce ne sera pas un preacher, ça va être aussi un gars les deux pieds sur la terre.
Non, mais avant qu'il règne spirituellement, il va avoir des épreuves à traverser, ça c'est très clair.
Mais peut-être aura-t-il, et les Israélites comme les francs-maçons, si jamais il y avait un affrontement entre les Arabes et les Israélites, peut-être mettraient-ils les pouces dans des quantités de domaines, et à l'occasion de cette chose, là arriverait-il? C'est possible. Car il arrivera certainement à l'occasion d'une protection quelconque que les gens se serviront. Les groupes se serviront, c'est vraisemblable, n'est-ce pas? Car à l'heure actuelle, telles les choses sont en place, je ne vois pas la façon dont il pourrait arriver. Toute notre presse est occultée, occultée, la radio, la télévision, tout est occulté, n'est-ce pas? C'est absolument certain.
Alors, il arrive sans armée, moi c'est ma théorie, il arrive sans aucune armée.
Il naît d'abord d'être humain sur la Terre.
Bon, c'est ça, il naît d'un père et d'une mère, mais il va les perdre. Il est orphelin, ça c'est très très dit dans les prophéties. Il est orphelin de père et de mère, il est exilé. Alors justement, avec Maurice, on en a encore parlé il n'y a pas longtemps, là, juste avant l'émission. Et on se disait, est-ce qu'il est né en France? Parce que Nostradamus dit « nul d'Espagne, mais de France ». Dans les prophéties qui le concernent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il sera né en France et exilé quelque part et qu'il revient de l'étranger? C'est possible. Est-ce qu'il est né à l'étranger et il vient vers la France? C'est possible aussi.
Et cet étranger-là...
Mais de sang français.
Cet étranger-là, Nostradamus nous dit, c'est dans les terres d'Hespéride, c'est-à-dire sur la même latitude que la France, à l'ouest.
C'est ça.
C'est le Québec.
Oui,
et c'est
bien
le Québec.
Sûr.
C'est ça, mais comme il l'a très bien dit tantôt, il dit qu'il aime beaucoup. Le Québec, parce que c'est ça comme
Québec,
en France. Et ça, c'est un point important. Vous avez remarqué, il y a trois listes dans la bannière...
du dernier roi de France.
C'est ça. Ouais. Et il y en a quatre dans celui du Québec. Si on remarque, le 3 dans le tarot est relié à l'impératrice. En fait, le principe fondamental, en quelque sorte, c'est l'idée manifestée, si je peux dire, mais pas nécessairement l'idée véritablement concrétisée dans la masse.
Exact.
Tandis que dans le 4, c'est le contraire.
C'est
l'idée, elle est fortement enracinée dans la nation même. Alors, on va dire qu'à ce moment-là, la nation et le roi se reconnaissent mutuellement. Il n'y a pas véritablement de distance.
Non.
Alors, il y a un principe de simplicité là-dedans tout à fait remarquable.
Mais il est dit que les vrais légitimistes et ceux qu'ils reconnaîtront très vite quand il va sortir tiendront dans une cage d'ascenseur.
C'est probable.
Tiendront dans une...
Cage d'ascenseur, près d'ascenseur. Combien? C'est 15 pieds par 15 pieds.
Ouais.
C'est dit dans des prophéties, c'est même mesuré dans des prophéties. Les vrais légitimistes qu'ils reconnaîtront seront à se tenir dans 15 pieds carrés.
Est-ce que je m'avance en disant qu'il serait déjà né?
Bien sûr.
Oh, c'est vrai.
Ça, il faut
bien sûr qu'il soit né.
Il est déjà parmi nous.
Il est déjà parmi nous et je dirais qu'il passe au Québec.
C'est vraisemblable.
C'est un jeune garçon.
Car les
vous lui donneriez quel âge à peu près?
Il est très jeune. Il est très jeune. À mon avis, il pourrait avoir une vingtaine d'années actuellement.
J'ai une hypothèse sur 62 qui est très aléatoire, mais
il serait né en 62.
C'est-à-dire, c'est une des dates qui est une hypothèse.
Oui,
absolument rien avancé.
Et c'est très intéressant ce que tu dis là. Pourquoi? Parce que moi, je fais le parallèle avec le Christ et avec Judas. Lorsque le Christ est incarné sur la terre, Judas est incarné sur la terre. Donc quand tu dis 62, tout le monde pense à l'Antéchrist. Et je pensais aussi, oui, on pense que l'Antéchrist, c'est celui qui va venir après pour le combattre.
Oui.
Mais il y a beaucoup de gens qui disent en ésotérisme que l'Antéchrist serait né en 62.
Oui, mais c'est ça, mais il y a beaucoup de contradictions. Madame Dixon a donné deux versions là-dessus. C'est elle qui a parlé la première fois d'un personnage en 62. D'un côté, il y a un personnage messianique qui rassemble tous les gens de la Terre dans une doctrine spirituelle. Mais de l'autre côté, là, il y a l'Antéchrist qui combat le Christ. Alors.
Mais c'est pour ça très bien qu'on pourrait voir, ton hypothèse peut être bonne, tu pourrais très bien penser que le grand monarque est né en 62, en 4 ou 5 février 62, et qu'il est né en même temps un type qui va le contrer, c'est évident, mm-hmm. parce qu'il faut de la lumière pour faire des ténèbres, et donc il y a toujours la polarité en permanence. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, on peut penser qu'il a peut-être l'âge de Jeanne d'Arc actuellement. Je ne peux pas donner sa date exactement, parce que je pense qu'il faut qu'il soit très jeune quand même.
Il parle français.
Il parlera certainement plusieurs langues.
Oui, c'est ce qu'on dit, hein? 4-5 langues.
Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'il marchait ici de temps en temps. Il vient. Mais il ne sait peut-être pas qui il est encore. Parce que s'il connaissait sa mission tout de suite, il en mourrait. C'est tellement puissant d'aller faire le nettoyage en Europe et partout, car il y a une dernière croisade qui sera portée en Israël pour les lieux saints. Pourquoi les chiites se répandent sur le monde? Pour aller dans les lieux saints. Ils veulent d'abord la Mecque, et rappelez-vous que Jérusalem est le troisième lieu saint arabe. Il y a une mosquée sur le temple.
Ils l'appellent Al-Quds.
Al-Quds. Donc, ils veulent aller tout de suite d'abord sur la Mecque, et ensuite ils filent sur Jérusalem. Faut pas se tromper.
De retour dans quelques instants, après cette pause, pour la conclusion.
C'est dommage que cette spiritualité soit descendue dans la pierre, dans de la brique, mais dans des bâtiments.
Ben c'est ça, en réalité, ce n'est pas de la spiritualité.
La lettre
dans le
tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que c'est les théologiens là, qui butent contre les queues de mouche, etc.
Est-ce que ce grand monarque-là ne serait pas au-dessus de ces pièges de la matière?
Mais je pense qu'il aura de grandes protections.
Faire une croisade pour aller libérer encore des roches, me semble que... Ouais. Il y a besoin de libérer l'être humain dans son cœur.
Nous sommes des exégètes.
C'est ça l'essentiel. C'est la libération intérieure. Dans le fond, si on dit l'Église du Verseau, c'est... Enfin, l'Église physique, c'est la Terre. Mm-hmm. Mais le lieu saint n'est pas la Terre. C'est l'intérieur, c'est la conscience de toutes les personnes.
Le Saint des Saints en toi.
Si tu veux.
Et oui, Dieu est à l'intérieur de nous, c'est évident.
Voilà. Et le principe finalement fondamental, je dirais, de ce personnage-là, c'est que... Comme tantôt, il l'a très bien souligné, M. Bontemps, le problème du racisme, en fait, en réalité, au départ, ne se présentait pas en France. La France a voulu créer une fraternité universelle par ses institutions intellectuelles, le développement de la science jusqu'à un certain point, parce qu'on sait que la science moderne est née en France. Elle n'est pas née en Angleterre ou ailleurs. C'est très important.
C'est tout à fait vrai.
Et toute l'idée fondamentale de la science était de libérer l'humain de certaines servitudes matérielles.
C'est le principe de la Révolution. La Révolution était ça, libérer l'homme, faire de plus d'égalité.
Voilà.
Tous les principes de la première Révolution avant 93 étaient très bons. D'ailleurs, le roi de France est devenu un roi constitutionnel.
Et a
quand même, moi je dis ce que je pense...
C'était maçonnique.
Oui, bien sûr, même le roi appartenait aux loges. Louis XVI a appartenu aux loges.
Louis XVI, non.
Mais léger, enfin, il y est passé un petit peu. Et si vous voulez, il a quand même signé, contre-signé, si vous voulez, les droits de l'homme, qui sont pas mauvais en eux, mais qui sont... Monsieur Bontemps a très bien parlé de tout ça tout à l'heure. Je veux dire, vous savez, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre. C'est ça le problème.
Mais la nouvelle religion sur la planète, moi, je pense que c'est la science. Les grands prêtres...
Science mystique.
Oui, oui. Ben, justement, qui va très loin.
Fusion.
Alors... Science sans conscience.
Alors, c'est la grande séduction.
Ah, voilà. Oui.
C'est l'arbre de la vie, du bien et du mal.
Bon, alors attention.
C'est ce qu'Oppenheimer a dit quand il a fait la bombe atomique. Nous avons fait le travail du diable.
Et il s'est suicidé.
Je demande la parole.
Oui. Et d'ailleurs, j'étais pour vous la donner.
L'interprétation de la science.
Oui.
Car en science, c'est en principe la science telle qu'elle est à l'heure actuelle. on veut perpétrer constamment un effet dit scientifique. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un gros laboratoire qui achèterait, en Chine par exemple, des produits qui sont de la vieille pharmacopée chinoise et qui marchent admirablement sur le cancer, et ils se sont rendus compte qu'ils marchaient admirablement aussi sur le sida. Dire que le sida soit guéri, sûrement pas. Mais ce que l'on peut penser, c'est que le sida, d'après les marins qui sont allés là-bas, augmentait leur T4. Les médecins sauront ce que cela veut dire. C'est-à-dire que ça augmente leur défense, incontestablement. Et ce gros laboratoire américain a dit, nous avons acheté les brevets, nous avons acheté le savoir-faire, j'ai le nom du produit, j'ai absolument tout. N'est-ce pas? C'est un espoir. Alors, l'un des médecins qui était là a demandé, quand allez-vous nous sortir cela? Ils ont dit, écoutez, monsieur, nous ne sommes pas des marchands, nous sommes des scientifiques. Et lorsque nous saurons ce qui agit, n'est-ce pas? Nous le sortirons dans une dizaine d'années peut-être. Et l'un astucieusement a posé la question, combien est-ce que cela coûte? 9 francs français les 100 comprimés, ont-ils dit. Tout le monde s'est mis à rire.
Ça coûte moins cher.
Bien entendu.
Oui.
Je ne vous en parle pas plus. N'est-ce pas? Alors, je voudrais bien savoir si, au nom de la science, il faut savoir ce qui agit pour sauver quelqu'un, n'est-ce pas? Ou les laisser mourir par milliers. Alors, voilà encore un péché contre l'esprit que je suppose, moi, n'est-ce pas? Alors, à vous de juger.
Bon, docteur Bontemps, vous avez justement tenu peut-être les propos que tiendrait le grand monarque. Et la fameuse libération de l'être humain sera par une religion scientifique ou une science spirituelle qui remettra dans l'être humain l'équilibre. Nos laboratoires pharmaceutiques nous droguent, nous enlisent dans la matière avec des pilules chimiques. Alors que tout ça se rétablirait par l'équilibre de l'être.
Les pilules chimiques sont valables aussi.
C'est l'esprit.
Mais par l'ennui
total de l'être.
L'ennui, n'est-ce pas, que cette médecine qui est valable, tout à fait. Mais attention, n'est-ce pas, c'est qu'à l'heure actuelle, la médecine est menée par l'industrie. La médecine est devenue une industrie. Et le médecin est tributaire de cette industrie. Car il ne fait pas la médecine qu'il désire, le médecin.
On en a déjà parlé de ça dans l'émission. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'on en revienne, parce qu'il reste quelques minutes seulement, cette émission sur le sujet du grand monarque. Serait-il celui qui libérera l'humanité de l'emprise du temps et de l'espace en lui donnant la clé qui rétablira son arbre de vie pour qu'il puisse enfin encore goûter les fruits de l'arbre de vie?
S'il descend de Dieu, peut-être.
Voilà le mot, c'est ça.
Et de quel Dieu?
Je crois
de l'unique que toutes les religions du monde ont aujourd'hui. Alors ça, on est bien tous d'accord. Que ça soit l'islam, que ça soit les Hébreux, que ça soit les chrétiens, on a tous un Dieu unique. On est déjà d'accord là-dessus.
Et qui donne la vie.
Mais qui donne la vie, c'est évident.
Et qui guérit les malades.
Il est au-delà de la politique.
Et qui prolonge pas les maladies.
Il est au-delà de tout, je dirais, il est au-delà de
politique finale.
C'est l'intelligence suprême. Et ce que je veux dire, parce que là, ça va se terminer peut-être, c'est qu'il faut penser quand même, quand va-t-il venir, ce grand monarque? C'est très proche, d'après moi.
Ben, il est déjà né, d'après ce que vous dites.
Oui, c'est très proche.
Un élément essentiel sur le plan géophysique, c'est l'augmentation, l'accélération des catastrophes naturelles.
Ça, c'est certain.
Très important.
Sur le plan biologique, il est certain que nous n'avons pas besoin de lire Nostradamus pour se rendre compte que nous sommes dans le chaos.
Voilà.
Que la Terre meurt. En tant que biologie, je peux vous l'affirmer.
Et que la Terre meurt.
Je vous crois sans peine.
Et donc, les temps sont proches. Nous vivons la fin
du monde. Le sida, d'ailleurs, est une manifestation de quelque chose de très chaotique.
Ce n'est pas la fin du monde. Mais depuis 1917, nous sommes rentrés dans la fin du temps des nations. Et nous allons vers quelque chose d'assez douloureux, certainement. Et le grand monarque, à mon avis, vient très proche, n'est-ce pas? Le bicentenaire de la Révolution va commencer à préparer le monde à son arrivée.
Michel Morin, Maurice Poulain et Dr Raymond Bontemps, je vous remercie d'avoir amené les gens sur cette prise de conscience. Juste en terminant, en quelques 30 secondes chacun, est-ce que le Québec a un rôle privilégié dans l'histoire future du monde?
Moi, je pense que oui, pour bien des raisons, parce qu'il a gardé une forme d'authenticité, n'est-ce pas, que la France a totalement perdue. Comme la France était la fille aînée de l'Église, nous pouvons penser une chose, que le drapeau serait planté sur le Québec au départ. C'est mon avis.
Moi, je réponds oui, parce que dans des interviews, quand on pose des questions à la population québécoise, qu'est-ce que vous privilégiez le plus au monde, ils vous disent d'abord Dieu et deuxièmement leur santé. D'autre part, le drapeau québécois est le seul drapeau au monde qui est un drapeau d'un régiment royal et qui a des fleurs de lys et qui annonce avec ses couleurs la prophétie qui est annoncée par tous. Pour moi, le Québec, c'est la nouvelle arche. C'est un petit Israël, en deux mots rapidement. C'est une terre sacrée qui va montrer ce qu'elle est.
En peu de mots, c'est ça. C'est le royaume du lys, dans le fond, c'est ça. Le royaume, c'est le royaume de la pureté intérieure. C'est-à-dire que toute recherche dans le monde matériel devient acceptable dans la mesure où les intentions sont pures. Et la simplicité du cœur, la connaissance liée à la simplicité du cœur est quelque chose de très rare. Et je peux dire que beaucoup de savants s'installent ici présentement au Québec parce qu'ils aiment cette simplicité-là. Et le principe fondamental Verso qui veut qu'on aime le prochain comme soi-même peut se réaliser dans ce sens-là, avec une science éclairée, mais pas seulement une science qui nous éclaire sur le corps, mais aussi sur l'intérieur. Et dans ce sens-là, il y a des choses à venir que seul le grand monarque peut nous dire. Je pense pas qu'on puisse préjuger de ça.
Et le cœur du Québec est bon.
Ah, mais ça, c'est fondamental.
Merci, messieurs.
Nous étions ensemble à écouter cet enregistrement fait dans les années 80 pour l'ésotérisme expérimental. Je ne sais pas si vous avez la même impression que j'ai. C'est comme si tout avait été suspendu. Comme si rien ne s'était développé, ou alors ça se serait développé dans l'occulte, de manière tout à fait invisible. Comme si rien n'avait changé. Et que l'agenda, le plan prévu, est toujours en marche. Quand il éclatera au grand jour, on sera certainement encore une fois tout à fait surpris, alors que tout était déjà dit. Ce qui me rappelle la formule des textes sacrés, « Tel il est écrit, tel il sera ». Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à un complément de cette émission qui a lieu tous les samedis soirs en direct, ce qu'on appelle l'enregistrement du Vidéo Randia, qui se fait entre 8h et 9h30 au canal Orandia TV. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube en écrivant Orandia, O-R-A-N-D-I-A TV, et vous verrez que l'émission débute vers 20h, avec souvent ligne ouverte, qui vous permet donc de passer vos commentaires, questions et suggestions directement en ondes. Il y aura au mois de mai prochain, avec la collaboration de CJLV, la station que vous écoutez présentement, un congrès ufologique qui suivra une semaine d'émissions de radio faites en collaboration avec Bob Bellanca de France et Jean Rivet du Québec, du groupe Vox Populi, et de moi-même, Richard Glenn, d'ésotérisme expérimental, façon de créer le pont entre l'ancien continent, la mère patrie, comme on vient de parler dans cette émission, et l'éclosion d'une conscience originale, non piégée dans des mouvements religieux, ni politiques, mais qui permet à chaque individu de se trouver mieux dans son être. La raison fondamentale de cette station CJLV, 1570 AM, la radio du mieux-être. Au plaisir de vous rencontrer lors de nos rencontres-conférences qui ont lieu au début de chaque mois, le premier vendredi du mois à Québec, à l'Université Laval au pavillon Vachon. Et le dimanche qui suit le premier vendredi du mois, c'est à Montréal, au cégep de Maisonneuve, tout l'après-midi, de 1h à 5h, à 3800 rue Sherbrooke-Est, métro Pinneuf. Ici Richard Glenn qui vous souhaite d'être heureux. On a tout pour cela autour de soi, ici et maintenant. À la semaine prochaine.